Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Cécile Coulon. Merci d'être présente parmi nous. Je sais qu'à chaque fois que vous rencontrez des lectrices, beaucoup, des lecteurs aussi, il y a toujours beaucoup de monde. Alors, petite anecdote juste avant de commencer, parce que on est un certain nombre à vous suivre sur les réseaux sociaux et vous avez lancé votre Cécile Coulon on tour, puisque vous êtes depuis le mois de février, peut-être même d'ailleurs depuis le mois de janvier, puisque l'ouvrage dont on va parler, La langue des choses cachées, donc, est sorti en début d'année. Vous faites beaucoup de rencontres avec les lecteurs, les lectrices dans des librairies à travers la France. Alors, avant de commencer, pourquoi c'est ce besoin pour vous, parce que vous faites ça à chaque sortie de livre, pourquoi ce besoin de rencontrer vos lecteurs et vos lectrices ?
Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai deux réponses à cette question. La réponse officielle, qui est que, en fait, quand j'ai commencé à écrire des livres, pendant un certain nombre d'années, les seules personnes qui faisaient que ces livres étaient lus, c'était les libraires. Donc pendant 4-5 ans, j'ai tourné en librairie et il y avait parfois zéro personne qui venait. Et c'était des petits îlots comme ça de gens. Et avec le temps, il y a eu de plus en plus de monde. Et je trouve ça vraiment, comment dire, je suis toujours un peu, je trouve ça à la fois un peu exaltant, étonnant et mystérieux de se dire qu'il y a quelques années, il y avait zéro personne ou trois. Zéro, c'est quand il y avait un match de rugby en même temps. Voilà. Mais il y a ce truc de dire, bon, enfin, on n'écrit pas des livres que pour soi. On les écrit pour les gens qui vont les lire, et c'est plutôt bien de les rencontrer, ces gens. Donc, je suis contente de vous rencontrer, même s'il y en a plein que je connais ici. Et puis la réponse officieuse, qui serait la réponse de ma maison d'édition, c'est qu'il y a un moment donné, faut être là, quoi. Faut occuper le terrain. Et ça, c'est une réalité qui est vraiment très vraie depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Donc j'occupe le terrain à la manière d'un Aimé Jacquet, mais sans l'accent. Je muscle mon jeu, Vincent.
Et j'ai la référence, Robert Pires.
Exactement, elle va très bien se passer cette rencontre.
Alors bah tiens, on va attaquer les chemins de traverse, puisqu'on va avec vous Cécile explorer les revers du pays, les sous-bois, les grottes et les lieux-dits. Et alors, pourquoi écrire ? Alors je voulais pas commencer par là, et je souhaitais citer un auteur que vous appréciez, Haruki Murakami. Alors j'ai pas pris la référence effectivement sans en autoportrait en coureur de fond. Par contre, je suis tombé sur Profession romancier et je vais me permettre juste de lire un petit extrait. On me demande souvent durant des interviews pour quel genre de lecteur j'écris et je suis toujours très embarrassé pour répondre. En fait, je n'ai jamais eu conscience d'écrire pour quelqu'un, ni à mes débuts, ni aujourd'hui. La vérité est que j'écris avant tout pour moi-même. Alors c'est un peu en contradiction avec ce que vous venez de dire, ouais. Mais pour autant.
Je vois à quel point ce serait un piège d'écrire uniquement pour les autres, parce que on se dit, si on a une formule qui marche, pourquoi ne pas la continuer ad vitam aeternam, et on sait ce que ça donne. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Murakami, mais je lui dirai pas, et vous non plus. Je crois que quand même, pour moi, il y a une grande différence entre écrire des livres et publier des livres. On écrit effectivement des livres, on écrit une histoire d'abord pour soi, ça c'est évident. Mais quand on choisit d'envoyer un manuscrit à un éditeur ou une éditrice, quand ce livre est publié et qu'on part en tournée et qu'on va en parler dans des espaces qui sont des espaces très médiatiques ou au contraire pas du tout médiatiques, c'est forcément pour les autres. Donc je pense que je suis d'accord avec lui s'il s'agit d'écrire une histoire, je ne suis pas d'accord avec lui s'il s'agit de publier une histoire. Parce qu'à partir du moment où on envoie un manuscrit, l'histoire ne nous appartient plus. C'est plus à nous. Donc, si on n'a pas envie d'en faire cadeau, si on n'a pas envie de la partager, pourquoi la publier ?
Eh bien, La langue des choses cachées, puisque c'est grâce à cet ouvrage qu'on a le plaisir de vous retrouver ici, où vous êtes un peu comme chez vous, la librairie des volcans, on peut le dire.
J'ai un lit de camp, là. Ouais.
Alors, j'ai essayé, en 3-4 phrases, j'ai essayé, non pas de résumer, mais de donner quelque part une ouverture. Alors, je vais peut-être poser une petite question. Je vous demande d'être tout à fait transparent. Qui parmi vous a lu La langue des choses cachées ? Voilà. Donc, j'ai peu de chance finalement de divulgâcher quoi que ce soit, c'est assez rassurant. Mais quand même, pour les 5 ou 6 qui ne l'auront pas lu, je vais quand même faire attention. Alors, je vais essayer de vous proposer mon regard pour rentrer effectivement dans ce livre. Alors, je me concentre. Le fils, dont c'est la première fois, celle où il va remplacer la mère après l'avoir accompagnée si souvent quand elle était appelée, lorsque les hommes ne savaient plus où demander de l'aide. Pour la mère, ce travail, qu'on le nomme guérisseur ou rebouteux, donne au monde son équilibre, sa force et sa faiblesse, permet aux familles de résister aux secousses du temps. Pour rétablir l'équilibre du monde, il ne faut pas tomber. Terrible va être l'initiation de ce fils qui prend son tour. Que va-t-il donc découvrir dans ce fond du puits situé entre deux basses collines, qu'on ne quitte jamais sur ses deux jambes, mais toujours porté par d'autres ? En une nuit, il aura plus grandi qu'en 20 ans près de sa mère. On est bon ?
On est bien.
Parfait. Alors, c'est, je ne dirais pas comme souvent, en tout cas, ça a eu plusieurs particularités, ce récit, et j'aimerais qu'on attaque les personnages. Après, j'aimerais beaucoup qu'on parle des lieux, parce que je sais, en tout cas, je partage avec vous un certain regard sur des lieux, et notamment un certain nombre de lieux. D'abord, c'est un récit intemporel, et c'est un récit où les personnages n'ont pas de nom, pas de prénom. Et pourquoi ce parti pris ?
Alors, pourquoi ce parti pris ? Parce que je me suis rendu compte que, dans mes romans précédents, les prénoms et les noms étaient extrêmement importants. J'ai dans mon ordinateur un fichier avec tout plein de prénoms. Et je vais souvent chercher dans ce fichier quand je commence à mettre en place mes histoires. Et cette fois-ci, je me suis dit, peut-être qu'il faut essayer de faire autrement. Peut-être qu'il faut se débarrasser de mes béquilles d'écriture qui ont été vraiment très solides pendant un certain nombre d'années et essayer de se frotter à une nouvelle forme, à un autre exercice, un autre métier d'écriture. Et je me suis dit, la première chose à faire, c'est de faire tomber ces béquilles. Donc, les noms, les prénoms, les lieux, les dates, il n'y en avait déjà pas beaucoup avant, mais il n'y en a plus du tout. Il y avait le format aussi du texte. Donc, je me suis dit, ces personnages, une fois qu'on n'a plus leur carte d'identité, une fois qu'on a enlevé toutes les pages dans lesquelles on explique comment ils s'appellent, quel âge ils ont, d'où ils viennent, et leurs parents, ils ont fait quoi, qu'est-ce qui reste ? Si je dois commencer mon histoire tout de suite à l'essentiel de leurs actes, de leurs décisions, et que tout ça doit tenir en une seule nuit, qu'est-ce que je vais faire de ces personnages ? Et en fait, moi, ça m'a permis déjà de me mettre un coup de collier en termes d'écriture, c'est-à-dire d'occuper le terrain et de muscler mon jeu, mais surtout de ne pas m'appuyer et de ne pas alourdir le langage, de ne pas alourdir l'histoire et d'avoir une histoire qui est assez vive, qui est assez dynamique, qui est assez âpre aussi. Mais moi, j'ai trouvé ça assez jouissif de se dire on rentre tout de suite dans le grand bain et on se débarrasse d'une forme de classicisme d'écriture.
Alors, c'est vrai que les prénoms, alors je ne vais pas rentrer effectivement sur les livres d'avant, qui sont d'ailleurs toujours les livres de notre quotidien. Il y a Candre et Aimé, dont Seul et sans demeure, ça a du sens. Alors peut-être ma préférée, Blanche, Une bête au paradis. Il y a effectivement Antime, donc le pélican, dans le cœur du pélican. Donc on voit vraiment le parti pris. Et on reviendra d'ailleurs sur ces personnages, notamment la mère et donc le fils. Vous avez parlé de la nuit, parce qu'effectivement c'est un roman, en tout cas c'est d'ailleurs un roman. Est-ce que c'est un conte ? Est-ce que c'est un polar ? Est-ce que c'est un polar poétique ? Finalement, comment vous le définissez, ce livre ? Et d'ailleurs, faut-il le définir ?
Alors, on est dans une librairie. C'est compliqué de ne pas définir un livre quand on est dans une librairie, parce qu'il faut bien le ranger quelque part, sur une étagère. Mais j'aime bien l'idée de polar poétique. Même si tous les gens qui aiment le polar ils diront non, et tous ceux qui aiment la poésie diront bah non plus. Mais l'idée qu'il puisse y avoir à la fois une atmosphère qui ressemble à du roman noir, un langage qui ressemble à un long poème, c'est peut-être la meilleure façon de le définir. Après oui, c'est un roman parce que c'est le terme générique, en tout cas pour moi, pour parler de la fiction, mais peut-être qu'à l'intérieur du terme roman et polar poétique, c'est quelque chose qui oscille entre le conte et la fable aussi, mais sans morale.
Mais sans morale, absolument. Alors, la nuit, vous avez parlé aussi de la nuit, ça se passe donc le long d'une nuit. Quel est votre rapport, quelle est votre relation à la nuit ? Vous avez dit, c'est dans un très grand magazine qui s'appelle, je crois, Marie-Claire, un roman, c'est un travail de jour, la poésie, non, c'est un truc de crépuscule ou d'aube. Vous avez comme ça compartimenté, vous avez vraiment, comment dire, vraiment des temps pour chaque type d'écriture, pour chaque...
Oui, en fait... Bon, déjà, il faut quand même savoir qu'on dit un tas de conneries, surtout dans Marie-Claire. Et ça, ce sera coupé au podcast de cette rencontre, parce qu'on n'a rien contre les gens qui travaillent à Marie-Claire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était sans doute une façon d'expliquer que l'écriture des romans et l'écriture des poèmes, ça se fait pas tout à fait au même moment, et ça se fait pas tout à fait dans les mêmes conditions. Dans le sens où le support est différent. Le roman, ça va forcément être envoyé à une maison d'édition, et donc il faut que je sache combien de mois va durer l'écriture, quand est-ce que dans l'année je prends ce temps-là, qu'est-ce que je mets en place, quelles conditions je mets en place pendant plusieurs mois pour écrire un roman. Les poèmes, c'est tout le temps, parce que je les mets en ligne, et j'ai pas sur l'épaule la voix du monde de l'édition. Je n'ai que la voix intérieure, je n'ai que l'émotion, que le moment, que la phrase que j'entends, le truc qu'on me raconte, où je me dis ça sera un bon poème. C'est une histoire que j'ai envie de raconter tout de suite, je la mets en ligne, je ne corrige pas, je ne relis pas, alors que le roman, il n'est question que de relecture, de correction, de questions sur l'avancée ou non du texte et des personnages. Donc c'est vraiment, si on continue la métaphore sportive, je pense que le roman, c'est comme se préparer et courir un marathon, et le poème, c'est faire des sprints tout au long de l'année. Mais les deux se nourrissent, les deux vont ensemble.
Alors, la langue des choses cachées. Je vais me permettre, alors je ne vais pas passer tout notre entretien à lire des passages, un ou deux quand même, parce que j'aimerais qu'on parle de cette langue des choses cachées. D'abord, Cécile Coulon, c'est un titre extraordinaire, franchement.
Eh ben, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé.
C'est qui ?
C'est qui ? C'est le.
Non, ça rentrait. Non, mais je veux dire, c'est pas l'éditeur, parce que souvent les éditeurs choisissent de changer le titre du roman.
Et ben, c'est ce qui s'est passé. En fait, moi, j'avais un titre qui était le nom du village, Le Fond du Puits. Je trouvais ça super. Oui. Et donc, j'ai envoyé à la maison d'édition, et mon éditrice, elle m'a dit, c'est hors de question. Il est hors de question que ce livre s'appelle Le Fond du Puits. Et il y a eu un travail assez long, hein, de plusieurs mois, où on a fait des listes de titres. Et j'avais mis dans une de ces listes les choses cachées. L'éditrice trouvait que ça ressemblait un peu trop aux choses humaines de Karine Thuil, qui est un très bon livre. Donc on a tourné autour de ça, et finalement l'éditeur a dit « Mais dans le texte revient souvent cette expression, la langue des choses cachées. » Et voilà comment on en est arrivé là.
Eh ben, vous pourrez les remercier de notre part. Ceci étant dit, je vais parler de la langue des choses cachées avec effectivement un court extrait. Au milieu de cette foule aveugle, titubante, certains comprennent les choses cachées. Ils se mêlent aux autres et les soignent, les apaisent. Ils ressemblent à des hommes et des femmes, mais ils portent en eux des décennies de douleur et de joie. Ils connaissent le feu, ils l'ont en eux, ils maîtrisent les flammes. Ils entendent, écoutent, répondent. Ils guérissent dans un fond de ferme, près d'un lit sale, à côté d'un berceau cassé. Ils guérissent. Voilà. On les appelle pour cela, mais c'est bien autre chose que nous ne comprenons pas. Cécile Coulon, qu'est-ce que nous ne comprenons pas ou qu'est-ce que nous ne comprenons plus ?
J'ai l'impression d'être en matinale de France Inter à 5h du mat, là. Cécile Coulon, qu'est-ce que nous ne comprenons pas ? Eh bien, bien des choses. Non, mais alors, blague à part, bien des choses, parce que je crois qu'en élaborant ces personnages, j'ai pensé à pas mal d'expériences de guérison, de guérisseurs, de gens qui vous racontent, voilà... Enfin, tout le monde ici, si vous avez grandi dans des villages, vous savez ce que c'est que les gens qu'on va voir quand on a besoin d'être guéri, apaisé et qu'on ne va pas chez le médecin traitant. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est à quel point... Alors, c'est un sujet extrêmement contemporain, la question des médecines alternatives, des soins archaïques, comme on les appelle. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce grand paradoxe de croire en quelque chose qu'on ne comprend pas. De remettre son corps, sa confiance et son âme entre les mains de personnes dont on ne comprend pas la méthode, la manière, qu'on ne peut pas étudier à l'école, dont on ne peut pas, sortir diplômé de ce genre de guérison. Et ça m'intéressait beaucoup. Et ça me rassurait aussi beaucoup de dire, finalement, qu'on ait la capacité de s'en remettre entièrement à des forces un peu imprévisibles. Moi, ça me rassure énormément. Et je pense que c'est un peu le sujet du livre. En tout cas, ça a commencé avec ça.
Alors, c'est intéressant parce que, bon, moi, je c'est pas moi qui m'ai raconté ma vie, hein, c'est vous qui venez parler de votre livre. Mais il se trouve que j'ai été élevé en Lozère. Et les rebouteux, les guérisseurs ont une importance particulière. Et je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez arpenté l'Aubrac, mais dans un village qui s'appelle Nasbinal. Donc vous le savez. Il y a donc une statue. Oui. Il y a une statue d'un dénommé Pierre Brioude qui était une légende et qui le reste aujourd'hui. C'était Pierre Runet. Mmh. Et Pierre Runet était un rebouteux et c'était un guérisseur. Et c'est vrai qu'il y avait dans les villages, il y avait cette présence effectivement des guérisseurs qui faisaient partie intégrante finalement de la vie locale, la vie sociale et donc de la vie médicale.
C'est toujours le cas. Hein.
Toujours le cas. Je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est intéressant de voir effectivement votre regard de jeune femme finalement sur ce type d'activité, sur ce genre de personnage. Qui, soit dit en passant, il y a fait une courte référence dans votre roman, pouvait être aussi, c'était souvent des femmes, et souvent assimilées aussi à des sorcières. Bon, il faut le
oui,
dire.
Oui, tout à fait. Je pense que, mais ça fait partie du même mouvement. Quand on ne sait pas expliquer quelque chose, il faut trouver un langage qui est un langage périphérique, un langage qui est celui de l'incompréhension, mais aussi celui de la peur. Appeler quelqu'un qui va soigner une brûlure une sorcière ou un sorcier, c'est simplement un langage de peur. Ou alors c'est un langage de fantasme. Mais c'est vrai que c'est... Franchement, je suis ravie qu'on parle de Nasbinal pendant cette rencontre. Parce que j'ai un autocollant sur ma voiture. Nasbinal. Non mais c'est vrai, avec une vache dessus. Voilà. C'est vraiment très Robert Pires, Nasbinal. On attend l'intercité là. et ce sera parfait. Mais je crois qu'il y a aussi... La vraie question, c'est que quand on aborde le sujet dans des... très grande ville, sur pourquoi on remet son corps et ses problèmes entre les mains de guérisseurs ou de guérisseuses, les réactions et la façon d'en parler, c'est pas la même façon d'en parler en fonction d'où les gens viennent. Et il me semble quand même que là-dedans, il y a aussi un rapport à la géographie, un rapport à la terre, et aussi un rapport à l'enfermement géographique. Pierre Runet, que j'ai pas connu, hein, mais j'aurais adoré le connaître, j'imagine qu'il a dû être aussi important dans son village que l'instituteur, le maire, le notaire et le prêtre, qui ont des fonctions de mémoire vivante, de mémoire du corps, de langage. Et je sais pas si c'est aussi présent en ville, en grande ville. J'ai pas la réponse, mais je crois pas.
Non. D'ailleurs, vous l'écrivez, hein, donc on va revenir à la langue des choses cachées. Et donc, par rapport à cette activité, donc c'est celle des revers du pays, des sous-bois, des grottes et des lieux-dits. J'avais cité tout à l'heure. Et vous dites, en ville, la langue des choses cachées était enfouie sous d'autres mots, plus métalliques, coupés aux médicaments, alourdis par la paperasse. Donc, il faut un espace pour ça, pour ce type de croyance, ou en tout cas ce type de pratique.
Je pense qu'il faut un espace. Il faut aussi du temps. Et il faut des lieux dédiés absolument à ce genre de pratique, il faut beaucoup de silence et du temps, de l'espace et du silence, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut retrouver dans une métropole. En revanche, ce que j'ai appris en écrivant ce texte, c'est qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux maintenant en ville qui faisaient appel pour apporter des soins supplémentaires aux malades, à ces gens-là. Et j'ai trouvé que c'était une très belle chose que tout d'un coup, la médecine traditionnelle et les soins archaïques et un lieu où se retrouver.
Alors le silence, puisque la langue des choses cachées, c'est avant tout apprendre à écouter, apprendre à observer. Et en fait, la genèse finalement de cette langue des choses cachées, c'est l'observation, c'est le silence, c'est savoir se mettre à la disposition des autres.
Oui, c'est savoir se taire, ce qui est rare. Je dis ça alors que je vais parler pendant une heure, mais je crois que la langue des choses cachées, ça dépend par quel biais on le voit. Si on prend ce personnage principal, donc ces personnages principaux, le fils et la mère, c'est effectivement des deux personnes qui ne parlent pas, mais parce qu'ils ne parlent pas, sont extrêmement, ils sont attentifs, très attentifs à tout, mais à la fois au corps des autres, mais aussi au lieu, aux animaux évidemment, mais la moindre trace sur un meuble, la moindre épaisseur d'une pièce ou d'un lieu est un signe, est un indice. Et pour moi, c'est vraiment des gens qui ont ce don, mais qui n'est pas un don magique, de débusquer, démasquer, d'aller chercher ce qui se passe sans rien dire. Tout simplement en restant absolument, absolument ouvert à toutes les formes d'indices, toutes les traces disponibles. Et puis après, il y a aussi ce qu'est la langue des choses cachées quand on écrit, dans le métier d'écriture, à quoi ça correspond. Et pour moi, c'est vraiment le langage de la littérature qui est un langage, qui est un lexique, qui est un vocabulaire au-delà du langage amical, du langage familial, du langage professionnel, qui est quelque chose qui est soit au-dessus, soit au contraire très souterrain du langage social. Parce qu'en société, on est tout le temps, qu'on soit deux ou mille, pris entre les, comment dire, entre les barreaux du temps, de la conversation, de ce qu'il faut, des réponses qu'il faut forcément donner. Et tout d'un coup, quand on écrit, il y a ce luxe immense d'avoir tout le temps nécessaire, d'avoir justement ce calme et cet espace. Et je crois qu'il y a, en tout cas pour moi, quelque chose de très rassurant, mais aussi de très exaltant, de savoir et d'avoir assez tôt compris que dans la littérature et dans le fait de prendre un cahier ou d'avoir un ordinateur et d'écrire, on est entièrement dans un monde où les dates et les lieux n'existent plus, où le social n'existe plus, ce qui est vraiment fantastique.
Alors, puisqu'on parle, j'aimerais qu'on revienne au personnage, mais j'ai un peu fouillé dans ma bibliothèque. Alors, il y a une personne qui s'appelle Sylvie Gracia, que vous devez connaître.
C'est mon éditrice.
Et ben voilà, c'est ce que j'ai vu, effectivement, c'est votre éditrice. Elle a écrit quelque chose de très beau dans cet ouvrage, Les Nuits d'Itachi, qui remonte déjà à une vingtaine d'années. Elle dit « Les mots n'inventent rien du réel, ils le coincent dans ses derniers retranchements et le font avouer. »
Tout à fait.
Je trouve que c'est une très belle définition, finalement, et qui s'applique totalement à votre, non seulement à votre ouvrage, mais également
et,
à votre
Et Sylvie Gracia est avéronnaise. Et elle a elle-même une connaissance extrêmement aiguë à la fois du langage et du langage des guérisseurs et des guérisseuses. Mais je trouve ça très émouvant que vous ayez utilisé son texte et cette phrase-là, parce qu'elle a absolument raison. Enfin, en tout cas, je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. C'est parce qu'on a cette... comment dire ? On voit ce que c'est l'écriture de la même manière. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'on puisse encore inventer quelque chose en écrivant de la fiction. Au XIIe siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Chrétien de Troyes, qui est vraiment un type super, qui a dit une phrase très très importante. Il a dit « Nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants », pour dire que tout avait déjà été raconté et que lui, son travail, c'était avec une nouvelle langue, avec de passer de l'oral à l'écrit, de pouvoir transmettre les histoires qui étaient racontées à l'oral. Et je ne crois pas qu'on invente un nouveau langage. Je ne crois pas qu'on invente des nouvelles histoires. Je pense qu'on essaie toujours, avec ce qu'on a en nous, de raconter tout le temps la même histoire, mais de donner l'illusion que c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais la plupart des romans, des romans de langue française ou autre, les piliers, c'est souvent les mêmes, quel que soit le genre, quel que soit le format, c'est souvent l'amour... l'absence, les retrouvailles, la mort, la maladie. Enfin, on est sur cinq pôles très précis. Et il s'agit toujours, toujours, toujours de transmettre quelque chose de ces cinq pôles très précis. Et qu'est-ce qui fait qu'on rajoute encore une pierre à l'édifice ? Moi, je me souviens quand j'ai commencé à publier des livres chez Viviane Ami. Donc, j'étais un peu plus jeune que maintenant. Elle m'avait dit une phrase, mais qui m'est restée en tête, parce que c'est une des premières phrases qu'elle m'a dites quand je suis rentrée dans son bureau. Elle m'a dit, vous savez, il y a 3000 romans qui paraissent par an. En France. Sur ces 3000 romans, il y en a maximum 3 dont on se souviendra 20 ans plus tard. Donc quand on choisit d'en publier un, d'en rajouter encore un, il faut vraiment penser à ça. Se dire, est-ce qu'on veut que notre histoire, que notre style, que notre lexique soit oublié, tombe dans ce puits fabuleux qu'est la littérature, avec tellement d'histoires, tellement de livres, tellement de possibilités. Qu'est-ce que nous, on ajoute à ça ? Qu'est-ce qu'on ajoute à cette mixture-là ?
C'est une très, 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 très belle question.
Ça met un petit coup de pression, mais c'est nécessaire.
On parle des personnages maintenant. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans ce... Mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'écriture, parce que c'est un sujet, je sais, qui vous occupe naturellement, mais qui vous intéresse et que vous arrivez, je trouve, à très bien formuler. C'est-à-dire, c'est pas toujours évident, je dirais, pour une autrice, pour un auteur, effectivement, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment et d'expliquer en quoi, effectivement, ça le fait vivre. Et pourquoi c'est important de transmettre. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est avant tout une question de transmission aussi, j'imagine. On y reviendra. La mère. On va commencer par le maire avant d'attaquer le fils. Parce que la mère, pour celles et ceux qui ont lu donc ce récit, ce roman, ce polar poétique, c'est un personnage central qui a une particularité, il y en a plusieurs, mais une particulièrement évidente, c'est qu'elle n'apparaît pas, on ne la voit pas, effectivement, puisque c'est le parcours du fils qu'on va suivre, mais elle est là. Elle est là avec une puissance, avec une force quasi tellurique. Hein. Vous la décrivez, elle est, on l'appelle, on ne sait pas depuis combien de temps d'ailleurs, il y a un très beau passage où on dit avant la naissance du fils, et on a une espèce de voyage qui va du conte finalement quasiment au reportage de guerre, on est espèce dans un monde, on a l'impression de traverser les siècles, et pour tout vous dire Cécile, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai relu ces pages-là, je me suis demandé, ça va peut-être vous surprendre, vous allez trouver ça peut-être complètement ahurissant, mais à un moment quand j'ai relu, c'est parce que quand je voyais la mère dans cet environnement, je me disais, mais c'est pas la mère, c'est la grande faucheuse en fait.
Mais bravo, parce que mais là vous êtes en train de balancer à tous les gens qui n'ont pas lu vraiment le pivot principal du livre. Allez, alors maintenant on part sur l'intercité là, Clermont-Ferrand là, tout de suite là. Non mais en fait oui, absolument. La mère qu'on ne voit jamais, qui est toujours racontée soit par son fils, soit par le prêtre, soit par les gens du village, elle incarne cette espèce de force. On ne sait pas vraiment quel âge elle a. On sait qu'elle a tout connu, qu'elle a tout vu, qu'elle est venue en aide à la fois à des chevaliers, à des rockstars et à des animaux. Et elle incarne quelque chose qui choisit ou pas de continuer la vie. Voilà. Une fois qu'on a ça en tête, on évite de raconter la fin. Et surtout, mais ce qui était intéressant à partir de là, c'était de se dire, mais du coup, son fils, si la grande faucheuse a un fils, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il incarne, lui? Puisque elle est tellement puissante, elle est tellement crainte aussi.
Et c'est toute la question, effectivement, on en parlait tout à l'heure de l'héritage, c'est toute la question aussi du déterminisme, oui. c'est tout ça qu'on va suivre, oui. C'est tout ça qui va s'incarner. Enfin, c'est quand même aussi difficile, on parle ou pas de la grande faucheuse, d'accord, mais enfin, la question de la violence inhérente, la question de la cruauté qui est au cœur de chacune et de chacun, il y a un personnage qui est donc joué par un père, dont le fils est malade, et raison pour laquelle le fils est appelé finalement à venir le soigner ou tenter de le soigner, c'est d'une violence quand même assez inouïe, vous arrivez à le retranscrire, mais ça fait vraiment froid, c'est-à-dire dans le dos, parce que cette violence que vous décrivez, on l'a tous et toutes au fond de nous-mêmes. Et vous arrivez effectivement quelque part, non pas à l'expurger, mais à le faire remonter à la surface et à nous mettre, à nous confronter finalement à ces sentiments-là. Alors, j'aimerais finalement, on parle du fils. Et pour parler du fils, même si on viendra à la mère, eh bien écoutez, je vous propose quelque chose, c'est que ce ne va pas être moi qui vais lire un passage. Il se trouve que vous avez beaucoup de lectrices, de lecteurs qui adorent ce que vous faites, et j'en ai parlé avec quelques-uns. Il se trouve qu'il y a une personne qui est ici, qui s'appelle Christine, et je lui ai proposé de choisir effectivement un passage de ce livre qu'elle a elle-même choisi, et qu'elle puisse non seulement vous le lire, et puis peut-être aussi vous expliquer pourquoi Christine a choisi ce passage.
Je suis un peu intimidée. Les lunettes. L'enfant poursuit son itinéraire en posant les doigts sur les pierres. Derrière lui, le fils regarde ses mains encore jeunes se frotter aux bâtisses d'un siècle écrasé par l'histoire. Il n'ose pas, lui, toucher ses maisons, car il verrait et saurait. Déjà, il a fauté en suivant cet enfant. Déjà, il quitte sa tâche. Sa mère le sait. Il en est certain. D'où elle se trouve, elle sent que son fils prend le mauvais chemin, qu'il détourne son attention du garçon malade, de son père violent. Un instant, il a peur qu'elle vienne, cette mère redoutable, finir le travail à sa place. Puis il se souvient qu'il est là, seul, sans elle. Cette pensée l'immobilise. Quoi qu'il fasse, sa mère ne viendra pas. Elle ne viendra plus. Le fils se met à trembler. L'enfant a disparu, la langue des choses cachées ne murmure plus dans son oreille. Sa mère ne viendra pas, et peut-être qu'à son retour, la maison sera vide. Il sent battre son cœur jusque dans ses orteils. Il lui semble que le pont au pendu tremble aussi. Tout le village est sur le point d'être englouti dans son émotion. Sa mère l'a envoyé là pour disparaître. Elle l'a envoyé loin, dans le fond du puits, entre deux basses collines. Il comprend que cette mission est le début d'une vie, la sienne et la fin d'une autre, celle de sa mère. Le voilà secoué d'angoisse. En lui montent les années d'apprentissage au milieu de la nuit des souvenirs. Les leçons, les bonnes façons de faire, les alertes et les silences de sa mère le déchirent et gonflent son cœur qu'il doit garder sec et solide en toutes circonstances, disait-elle en appuyant sa paume sur la poitrine de son fils. Elle l'a laissé partir seule, soigner seule, prendre la décision seule et surtout voir un seul enfant.
Merci beaucoup. Merci.
Expliquer pourquoi ce choix ou une question posée à Cécile Coulon.
Alors ce choix en fait il a été fait, enfin on l'a fait conjointement, en fait je l'ai fait avec une amie qui m'est chère, qui aurait aimé être là ce soir, Catherine, donc qui m'a, enfin voilà, on a discuté et donc ces phrases parce que, bon mais il y a les personnages, parce qu'il y a à la fois là, ce que j'ai ressenti moi c'est la noirceur qu'il peut y avoir certaines fois, mais aussi tellement de délicatesse et tellement de poésie, tellement de douceur et d'empathie. Donc, et en plus, le fils qui trahit. Donc, voilà. Merci en tout cas, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces lignes devant vous.
Merci beaucoup, c'est très gentil. On est d'accord que c'est avec vous, des fois, que je parle sur Facebook de course à pied.
Oui.
C'est vous, hein ? Ouais, d'accord. Merci, doublement, du coup.
Le fils, donc, oui. Et le fils et la mère, et c'est particulier, comme est toujours, alors c'est peut-être un moment particulier d'aborder ce sujet, mais on est tous fils et filles de gens, et c'est toujours facile, je dirais, c'est pas toujours facile de suivre la trace, et puis on voit bien que ce fils, il doute beaucoup, il doute de pas être à la hauteur, et que finalement, il va avancer, il va grandir, comme je le disais en amont, en 20 ans, en une nuit, il aura pris plus que 20 ans après sa mère, mais c'est toujours la question de la filiation, c'est un sujet qui apparaît souvent dans vos romans. Il est essentiel.
Je crois que c'est un sujet qui apparaît souvent et que dans tous mes romans, il y a le sujet de la filiation et il y a aussi le sujet des différentes générations. Des grands-parents, parents, petits-enfants, toujours. Là, il y a aussi les questions d'une grand-mère, un moment qui est très important dans le livre. Mais parce que... La question principale qui a sous-tendu l'écriture du texte au départ, vraiment, une fois que j'ai eu mon lieu, c'était, en élaborant le fils, c'était est-ce que, quand on veut faire différemment de ses parents, est-ce qu'on fait pire ? C'était ça, ma question. Et comme mes parents sont là, je ne vais pas donner la réponse. Non, mais parce que, évidemment qu'on se pose la question. Et évidemment que... On est plein, et ce fils est plein des leçons de sa mère. Et quand il arrive dans ce village seul, on ne fait que lui rappeler qu'il est le fils de sa mère. On lui dit, elle aurait fait ceci, elle aurait fait cela. Vous n'êtes pas à la hauteur, elle a plus d'autorité que vous. Et vous n'avez pas fait les bonnes choses. Et en fait, c'est aussi un roman sur la désobéissance, sur l'émancipation. Mais sur l'idée qu'en sortant de ce village, il sera enfin un adulte. Et il va choisir évidemment de ne pas suivre totalement les enseignements de sa mère parce qu'il essaye d'être plus juste, parce qu'il essaye d'avoir plus d'empathie, parce qu'il veut être moins autoritaire qu'elle. Mais je peux pas dire que si... C'est aussi un personnage, le fils, quand il arrive, il a une vingtaine d'années, il est plein de son orgueil d'être seul pour la première fois. Il a ça en lui. Moi, je me souviens, quand je l'écrivais, je me disais, il y avait des passages, je me disais... En vrai, ce personnage, je lui mettrais bien deux claques, quoi. Et heureusement qu'il faut se dire ça de ces personnages, qu'on n'est pas là pour aimer ces personnages et pour dire ils sont super. Mais je crois que ce qui a été le plus difficile à raconter, d'une certaine façon, c'était pas les scènes un peu dures du livre, c'était de montrer en quelques pages comment lui, il va à la fois se défaire complètement des leçons, puis ne jamais cesser d'y retourner, à chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle personne. Et vous le dites, il doute énormément, et jusqu'au bout, il doute de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire, et de ce que sa mère a fait aussi.
Avec un rôle essentiel, qui j'aime beaucoup ce terme, le rôle, effectivement, quels sont le rôle, le mère et la fille, et lui, il détermine en fait finalement quel va être son rôle, c'est harmoniser la cruauté.
Oui.
trouve que c'est d'une très grande force, non seulement, on va dire, littéraire, mais en même temps, ça renvoie à tellement de choses, harmoniser la cruauté. Parce que il est autant question de beauté à travers ce jeune garçon, donc malade, qui représente finalement à lui seul, au fin fond de la nuit, dans ce village où les murs sont très, 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 très étroits, des fois. Et en fait, on a l'impression que le seul éclat de lumière, c'est ce jeune garçon. Alors, on ne va pas divulgâcher, mais il y a toujours une espèce de combat entre la beauté que représente ce garçon, ce jeune garçon si frêle, puis le reste du monde, incarné par l'ensemble des adultes, au premier rang desquels d'ailleurs son père, qui incarne finalement toute la violence du monde, quoi. Donc on a l'impression quand même que c'est un combat inégal.
Ah, je crois que c'est un combat qui est très inégal et que le fils, il arrive pour être entre les deux, justement, pour essayer de, à la fois de défendre cet enfant qui est malade, qui a de la fièvre, on a fait tout ce qu'on a pu et si on appelle le guérisseur, c'est vraiment qu'on ne... Enfin, c'est la dernière chance parce que ce père de famille n'a pas envie que ce guérisseur vienne, pas du tout. Quand il arrive dans ce village, le fils, il est la seule personne qui veut de lui, c'est le prêtre qui l'attend à la sortie du village en lui disant « dépêchez-vous, on y va ». Mais sinon, les portes se ferment sur son passage, les fenêtres aussi. On n'a pas envie qu'il soit là parce qu'on sait qu'un étranger qui vient, c'est aussi quelqu'un qui amène un peu de lumière et donc amène un peu de lumière sur les choses qui se sont passées. Il n'y a pas grand monde dans ce village, mais il y a assez de gens, il y a assez de familles pour qu'à un moment donné, ces familles se soient entretuées, se soient émis des enfants au milieu de ce combat-là. Et je ne sais pas si l'éclat et la beauté vient seulement de cet enfant. Je crois que ça vient aussi d'une autre scène avec une jeune fille, oui, et cette grand-mère. Et puis il y a un autre. Enfin, voilà, il y a des moments où surgissent dans cette nuit des personnages qui sont encore porteurs de beaucoup d'espoir, de beaucoup de colère aussi. Mais pour moi, c'est pas un livre qu'un livre sombre.
Non.
C'est pas le livre le plus optimiste que j'ai écrit. Mais il y a quand même des petits passages où on se dit, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent.
En tout cas, où on voit de l'espoir, où on voit, au fur et à mesure où la nuit avance, d'ailleurs, où le jour va se lever, on sent que vers le lever du jour doit arriver un inéluctable, quel qu'il soit, mais on sent qu'on va vers l'inéluctable. Voilà. Et pour autant, effectivement, je vous confirme, alors, il y a aussi parmi les personnages, non, je vous confirme que j'y ai aussi trouvé de l'espoir. Parmi les personnages, d'ailleurs, ces personnages qu'on a pu voir par ailleurs, notamment dans Trois Saisons d'Orage, il y a aussi le rôle du prêtre. Il est très complexe, ce prêtre. On voit qu'il attend la mère, il voit arriver la fille, c'est le véritable guide du village, puisqu'en fait, on sent que il y est arrivé très jeune, c'est écrit. On ne sait plus quel âge aujourd'hui, mais on imagine très bien. Et c'est lui, peut-être, qui a la clé, finalement, de toutes ces maisons. Vous le disiez, c'est tous ces drames, toutes ces choses cachées, comme la langue, d'ailleurs, quelque part, qui se sont produites. Effectivement, elles ne doivent pas sortir. Parce que c'est ça qui fait communauté. C'est ça qui donne l'équilibre, non seulement au village, mais à l'ensemble des gens. Et lui a la clé. Et il a un rôle, je trouve, très ambigu, parce que finalement, on a parfois l'impression, je dirais, que de par son statut ou malgré son statut, finalement, on a l'impression qu'il en connaît autant que la mère, finalement.
Oui, je crois qu'il en connaît autant que la mère. Et je crois que... Alors, ce personnage du prêtre, moi, c'est un personnage, pour le coup, que j'aime beaucoup et qui était un personnage qui était déjà présent dans un livre qui s'appelle « Trois saisons d'orage ». Et « Trois saisons d'orage », toute l'histoire était racontée par le prêtre.
Le père Clément.
Exactement. Bah, bravo. Parce que moi-même, je ne me rappelais pas de son prénom. mais oui, absolument. Et c'est vrai que... Et en fait, j'ai réutilisé ce personnage parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire entre Trois saisons d'orage et La langue des choses cachées. On pourrait penser que ça se passe presque au même endroit, sauf qu'il y a un endroit qui est en altitude et l'autre dans des ornières, quoi. Mais le prêtre, il est intéressant parce qu'il est à la fois celui qui est là depuis 50, 60 ans. C'est sa paroisse. Il veut tenir ce village. Lui aussi, il tient à l'équilibre. Mais il est la mémoire vivante. Il sait ce qui s'est passé. Mais il sait aussi que dire ce qui s'est passé, c'est le meilleur moyen pour faire exploser cette communauté. Or, lui, son travail, c'est de garder tout ce petit monde à cet endroit-là. C'est pas que les gens s'en aillent. C'est que les gens aillent mieux, mais ne partent pas. Or, comment ces gens dans ce village pourraient-ils aller mieux s'ils ne partent pas ? Et je trouve que son rôle et sa fonction sont vraiment des moments d'écriture assez exaltants, parce que ça oscille toujours avec cette envie de dire ce qui s'est passé, de le raconter, et en même temps, s'il le fait, il sort complètement de son ordre établi.
Et il sort même de sa vie d'ailleurs, parce qu'on voit bien que lui-même, non seulement c'est ce qui tient le village, mais c'est ce qui tient ce personnage. Mmh. Alors, toujours dans les personnages, cette jeune femme, cette femme que vous avez citée, cette femme au fusil, effectivement, alors qui, pour le coup, également, est vraiment la victime qui a été, effectivement, l'incarnation de tout ce que l'on peut faire de plus horrible, et tout ce qu'elle a été amenée à vivre et à souffrir, y compris d'ailleurs de par l'avenue et de par l'œuvre de la mère. C'est finalement un personnage, dans un film on dirait que c'est un personnage secondaire, parce qu'effectivement c'est un personnage qui n'apparaît pas longtemps, mais sur une scène cruciale, on va dire, qui est quelque part le basculement véritablement du roman, et c'est peut-être à ce moment-là que le fils prend toute conscience effectivement qu'il est en train de passer un cap et découvre finalement là encore une part d'ombre, non seulement de ce village, une part d'ombre de l'humanité. C'est des pages qui sont très bouleversantes, poignantes. Alors effectivement, sans rentrer dans les détails, qui ramènent à tellement de sujets d'actualité que ça en est d'autant plus fort.
Oui, et c'était aussi, comment dire, peut-être l'écueil dans lequel j'avais peur de tomber, mais aujourd'hui, et c'est absolument nécessaire, fondamental et normal, on en parle beaucoup médiatiquement et artistiquement de ces violences qui sont perpétrées depuis des générations dans certains milieux. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que la fiction apporte à ça. Si on se défait du témoignage, de la non-fiction, du podcast, enfin de toutes les écritures qui sont vraiment des écritures d'urgence absolue, de dire voilà ce qui s'est passé, il ne faut pas que ça arrive de nouveau. Qu'est-ce que la fiction amène d'autre ? Peut-être que c'est un temps, encore une fois on revient à ce temps de l'écriture qui est différent, qui a le temps de raconter, qui peut aussi, je pense, dire que la question du bien et du mal est une question bête. Parce que les personnes de ce livre qui font le plus de mal sont aussi des personnes douées d'énormément d'amour, de sentiments de protection, d'envie que la vie continue, que la communauté tienne. Et donc c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on imagine quand on écoute 5 minutes ou 10 minutes de séries, de films, de radio ou autre. Je pense que l'apport de la fiction sur le sujet de la violence, que ce soit la violence faite aux femmes, aux enfants ou aux hommes, c'est qu'elle prend le temps de raconter les choses d'une manière à la fois précise, assez crue, mais toujours, toujours avec le recul nécessaire pour ne pas tomber dans le témoignage. Ce qui ne veut pas dire que le témoignage est une mauvaise chose, hein, pas du tout. C'est simplement qu'elle... Enfin, en tout cas, moi, je crois qu'il est important que l'imaginaire fasse son travail aussi. Voilà.
On va passer au lieu... Parce que pour moi, l'un des personnages principaux également de ce roman, c'est les lieux. Et c'est quelque chose d'assez d'ailleurs courant. Vous attachez une grande importance aux lieux. Moi, les grandes villes n'existent pas. Donc ça, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué. Oui. De par ma jeunesse lausanne notamment. Parce que finalement, même avec...
On revient à Lesbina.
Quelques années. Là, c'était Marvejols, en l'occurrence.
On est sur une métropole.
Ouais. Oui, à l'époque. Et on retrouve bien, effectivement, l'importance de ces lieux. Vous dites, je ne sais pas commencer un roman autrement qu'en commençant par un lieu qui est très important, qui est magique et mystérieux. Donc, on sent que dès le début, dès l'écriture, c'est un sujet central. Et moi, j'ai retrouvé comme ça les noms des lieux qui sont quand même rien que ça, je dirais, sont des purs moments de littérature. Donc, le fond du puits, donc, dans cet ouvrage, situé entre deux basses collines, des sorciers insolents ont fait ici le grand feu pour attraper le soleil, et le soleil les a punis, plus jamais il ne vient. Il y a trois saisons d'orage, c'est les trois gueules, cette falaise infernale, et puis une bête au paradis, les bachans, le sombre étang. Cette volonté, ce besoin d'incarner les lieux à ce point, quand même, c'est pas banal.
Alors, c'est pas banal, en revanche, tous ces noms de lieux existent vraiment. En ligne, ça c'est vraiment la magie d'Internet, c'est qu'il y a sont recensés tous les 5 ans, il y a un endroit en ligne sur le site du gouvernement où il y a tous les noms des hameaux, des lieux-dits, des villes de France. Et c'est génial. C'est-à-dire que c'est un vivier de noms incroyables. Alors, si en plus on se promène un peu en France, c'est quand même fou parfois. Et c'est que moi, je suis allée beaucoup chercher dans ce registre, voilà, ce registre en ligne pour me donner un peu d'inspiration, pour aller trouver des noms de lieux qui étaient aussi importants que les prénoms des personnages dans les romans précédents. Mais le fond du puits, c'est un lieu dit en Picardie. Parce que je passe pas mal de temps en Picardie. Je trouvais que l'Auvergne, c'était un peu trop... Il y avait trop d'altitude. Je me suis dit, allez, un peu de colza, un peu de betterave, ça changera. Mais en tout cas, en Picardie, il y a vraiment énormément de... Dans un périmètre de 10 km à la ronde, je suis arrivée... Pour moi, c'était comme un cadeau absolu, parce qu'il y a un village qui s'appelle Fontaine-Bonnelot. Il y a un autre village qui s'appelle Crèvecœur-le-Grand, qui est à côté de Crèvecœur-le-Petit. Il y a la verrerie, la vacherie. Enfin, c'est des... Et je me suis dit, mais en fait, Picardie, terre de création, quoi. Et donc, dans le village où je passe du temps, il y a un lieu-dit du village qui s'appelle le Fond du Puits. Et un jour, je vais me promener et on me dit, ah, mais tu vas faire la promenade du Fond du Puits. Et ça a failli être le titre, la promenade du Fond du Puits. Et je me suis dit, quand on m'a dit cette phrase, je me suis dit, ok, dans le prochain livre, il faut qu'il y ait un endroit qui s'appelle le Fond du Puits. Et en fait, c'est un endroit où il n'y a pas de maison. C'est l'endroit où autrefois passait la rivière. On appelait ça le fond du puits puisqu'on allait y puiser de l'eau. Vraiment simple, ultra simple. Mais ça a commencé comme ça, ce livre. Ça a commencé au-delà du paysage par l'idée que je me faisais d'un nom qu'on m'a dit en quelques secondes.
Alors, pour revenir sur les lieux, bon, finalement, vous intégrez assez facilement dans différents lieux, soit décors de romans, je pense au Jura. Je crois que cet ouvrage, vous l'avez écrit dans les Alpilles.
Dans les Alpilles, oui.
Voilà. Donc, ce besoin de paysage, parce que c'est rarement dans les grandes villes, d'ailleurs, qu'on vous retrouve pour écrire vos œuvres. Je me permets de vous citer un auteur que j'apprécie aussi particulièrement et qui a beaucoup travaillé la question du langage, c'est Pascal Quignard. Mmh. Et Pascal Quignard, j'avais relevé ça il y a quelques temps, qui dit « Nous dépendons de nos lieux plus encore que de nos proches. »
Pascal Quignard, il dit des choses vraiment intéressantes. Hein. Après, mais mes parents sont là, hein, vous êtes gentils là, avec vos références. Mais,
non, mais c'est nos proches, c'est les gens avec qui on vit, bien sûr, pas la famille.
Ce qui est vrai, c'est que je suis absolument convaincue, persuadée, qu'on est autant éduqué par les endroits où on grandit que par les gens qui habitent ces endroits. J'en suis absolument persuadée. Et vous prenez une même famille, mais vraiment le même processus, la même traversée, les mêmes âges, le même nombre d'enfants, mais vous en mettez une dans le Puy-de-Dôme et une Nord-Bretagne, je vous garantis que 10 ans plus tard, ce ne sera pas la même façon de parler, ce ne sera pas les mêmes visages, ce sera pas... Le corps n'aura pas été façonné de la même façon parce que le climat n'aura pas été le même. Le langage, évidemment, ne sera pas le même non plus. Alors, ça se joue à des détails, hein, bien sûr. Mais je trouve que parfois, on oublie à quel point on est plein et aussi habillé par l'endroit qui nous a vu grandir, quoi. Ou les endroits où on habite, où on passe du temps. Et ça, je crois que c'est pour moi le début de tous mes livres. Parce que je ne peux pas écrire un roman si je n'ai pas d'abord un lieu qui est le personnage principal, qui ensuite abrite des personnages humains. Mais et c'est sans doute pour ça, par exemple, que je ne suis pas encore capable d'écrire un livre qui se passerait soit en grande ville ou en banlieue, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que de grandir dans un appartement, dans une tour de 20 étages, assise dans 40 mètres carrés, par exemple. Je suis incapable de raconter ça, parce que n'ayant pas été façonnée, moi, dans cet univers-là, je n'arrive pas à le raconter. En revanche, je pense que c'est plus facile pour moi de raconter un personnage qui se lève le matin et qui, en ouvrant la fenêtre, voit soit une rivière, soit un volcan, soit une montagne, que sais-je, parce qu'il y a en moi les traces de cette éducation géographique que je garde. Dans quelques mois, et les gens qui... Enfin, si vous venez écouter par Marie-Hélène Lafont, qui a quitté depuis longtemps... le Cantal et qui fait Paris, elle vous dira à quel point la ferme de son enfance et son paysage sont tout à fait constitutifs de sa vie, même maintenant. Et je crois que c'est tellement vain d'essayer de s'en départir. Voilà.
Puis, ce qu'il y a aussi, alors, dans cet environnement qui est le nôtre, je voulais aussi faire une petite référence, parce qu'on est un certain nombre à avoir très certainement suivi vos aventures radiophoniques. Vous parliez de France Inter tout à l'heure, j'espère que vous ne me compariez pas à Nicolas Demorand, ceci dit. Mais pour autant, on parlait de la source, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la source, mais vous avez donc suivi, choisi de rencontrer dans des lieux différents tout un tas d'autrices et d'auteurs qui vous ont parlé de leur inspiration. Alors, si on a le temps, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais vous avez déjà abordé ce sujet depuis qu'on discute ensemble. Mais bon, moi, j'étais très sensible à une autrice, mais pour des raisons peut-être un peu plus personnelles, c'est Marie Desplechin, qui... De Plechin, c'est vrai. Alors, il y a toujours le 2, le D, mais
c'est Roubaix, c'est Roubaix,
oui. Et puis, en plus, en tout cas, Marie, pour tout dire, et qui parle de la culture de la proximité. Et c'est un sujet essentiel, je crois, qui vous a certainement nourri et qui nourrit, je dirais, y compris vos personnages. Parce que d'un livre à l'autre, quelle que soit la nature et parfois même la violence de cette proximité, eh ben, elle fait culture malgré tout.
Oui, et puis il y a quand même cette question, et là, qui est à la fois sociale et géographique, c'est que si vous êtes dans un hameau ou un petit village, et qu'il soit dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, en Picardie, en Drôme, bah, en fait, si vous avez un voisin que vous ne pouvez pas encadrer, mais que c'est le seul voisin, il faut faire avec. Et il est possible que le jour où il y a une tempête ou il y a quoi que ce soit le voisin que vous détestez qui vous sauve la mise. Donc la question de la proximité, c'est aussi une grande question de contradiction. Je crois qu'en écrivant le texte, il y avait aussi le grand paradoxe de tous ces personnages qui peuvent tout à fait s'en aller de ce village et qui pourtant ne partent pas. C'est-à-dire qu'ils vivent côte à côte de gens qu'ils détestent, mais ils continuent parce qu'ils préfèrent faire communauté plutôt que d'être seuls. On n'est pas né... Enfin, on n'est pas des bêtes solitaires. Et vraiment, dans l'écriture du livre, parce qu'il y a eu quand même tout un moment où j'ai longuement discuté avec des gens qui s'occupaient de ceux qui ont été victimes de violences lors de cercles de parole, etc. C'est à quel point il est plus facile de se taire pour maintenir un équilibre plutôt que de parler et de risquer l'effondrement de cet équilibre. Alors que se taire, c'est continuer la violence. On le sait maintenant que le silence, c'est le meilleur conducteur de violence à répétition. Il suffirait d'eux, et pourtant on ne le fait pas, parce que c'est trop difficile, et parce que surtout, c'est prendre le risque, non pas de l'isolement, mais de la très grande solitude. Et on préfère parfois la violence en communauté plutôt que cette solitude-là. Et c'est terrible. Et en même temps, c'est très humain.
C'est très humain, absolument. Alors, je vois le temps qui passe et on vous laissera un peu de temps pour des questions, mais on ne peut pas continuer cette discussion sans parler un peu de poésie. C'est normal, parce que c'est une partie intégrante de votre œuvre, et puis c'est ancré en vous, on le sait bien. Alors, voilà, j'ai aussi envie qu'on entende de la poésie, qu'on entende de votre poésie, et puis je me suis dit que ça serait bien que ça soit aussi une de vos lectrices qui puisse se prêter à cet exercice. Je pense que vous la connaissez, c'est Héloïse qui va s'y prêter.
Merci. Je suis aussi un petit peu intimidée, j'ai pas trop l'habitude, c'est pas trop mon...
Mais en plus, on s'est vu à midi, on a pris café au Balinvilliers.
Voilà, c'est ça, tu m'as pas exactement. Dit ça. Non, je t'ai pas dit. J'avais des consignes. Donc j'ai choisi. C'était très difficile de faire un choix, mais j'ai fait mon maximum. J'ai essayé de faire ça de façon studieuse. Donc j'ai évidemment choisi Noir Volcan. Tu comprendras pourquoi. Et j'ai choisi. Je me suis intéressée un peu à la façon dont on termine un recueil, parce que c'est intéressant comment on le commence, mais c'est aussi intéressant comment on le termine. Et donc j'ai choisi La Douceur, ce qui t'étonnera peut-être pas. Alors, je m'excuse d'avance parce que j'ai dû aussi un peu raccourcir la douceur. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon amour. Aucun de nous n'est innocent. Et j'en ai assez de rattraper le temps perdu. Il n'a jamais été perdu. Le temps n'est pas une pièce de monnaie qu'on glisse dans la fente d'une machine à sous, ni le jouet d'un enfant capricieux. Le temps est ce que l'on en fait, au rythme de nos saisons intimes. Le temps ne se rattrape pas, il se protège. Ce qui compte, c'est la douceur. Le reste, des leçons de maître d'école qui ne jette jamais son œil par la fenêtre de la classe pour voir dans la cour les corbeaux bien rangés sur la grille. Bonsoir mon enfant, bonsoir mon frère, bonsoir mon amour. Prends-moi dans tes mains, de tes mains je ne crains rien. Je leur réponds quand elles me demandent, elles s'agitent quand je les réclame. Prends-moi dans tes mains, Le jour sera bientôt levé et les livreurs ont déjà démarré dans la grande rue. Prends-moi dans tes mains et emporte avec toi les miennes pour la journée. Ce qui compte, c'est la douceur. Je veux tirer de grands traits sur toi avec mes mains. Elles sont à toi. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon amour. Il y a des vérités simples que je n'ose pas écrire. Elles se chamaillent en moi comme des choses adorables. Alors j'attends qu'elles se taisent et je regarde la nuit tenir les toits des immeubles bas dans la poche de son manteau. Demain matin, une fois de plus, je rassemblerai tous mes morceaux. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon amour.
Merci beaucoup, Héloïse.
Non, avec plaisir.
Merci.
Et peut-être, Vincent, tu m'avais parlé d'expliquer pourquoi
Absolument.
Ce choix.
Absolument.
Alors, en plus de m'être intéressée à la fin d'un recueil, parce que je me suis un peu imaginé que la fin de quelque chose, eh ben, je ne sais pas, je n'ai jamais écrit, mais je me dis que peut-être on est entre la nostalgie de la fin et le soulagement de la fin. Et donc, ça m'a intéressée de regarder un peu cet interstice-là. Et pourquoi la poésie aussi ? Parce que c'était intéressant que j'explique mon choix de dire un poème ce soir. Parce que je pense qu'il y a une grande force, en fait, dans le fait de savoir voir, ressentir la puissance évocatrice des choses peut-être cachées, effectivement, mais aussi des choses simples et des choses quotidiennes. Et peut-être que ce soir, de façon un peu égoïste, j'ai voulu, quand je lis ces poèmes-là, capter un peu de cette force. Et j'imagine que je ne suis pas seule dans la salle à avoir voulu faire ça. Voilà.
Merci beaucoup, Héloïse.
Merci, Héloïse.
Merci.
Alors, la forme poétique. Pourquoi une jeune femme s'intéresse depuis si longtemps et a besoin de transmettre, par tous les moyens d'ailleurs, par l'écrit. Oui. Vous avez eu le prix Apollinaire. Je crois que vous dirigez aussi une collection de poésie, l'Iconopop, chez l'Iconoclaste. Mais pourquoi ce besoin ? Est-ce que c'est pas totalement décalé ? Est-ce que c'est pas totalement vain ?
Si, c'est totalement vain, mais il y a beaucoup de choses qui sont totalement vaines et qu'on continue à faire. Et heureusement qu'on continue à les faire, sinon on ne ferait plus grand-chose d'ailleurs. Mais je crois que, en tout cas, en ce qui concerne la poésie, c'est parce que, enfant, j'ai eu la grande chance de voir à peu près 350 fois le film « Le roi et l'oiseau » de Paul Grimaud. Et le film a été écrit par Jacques Prévert. Et donc moi, je suis rentrée en poésie par cette petite porte dérobée qui est le scénario de Jacques Prévert. Et à partir de là, je me suis rendu compte que cette forme-là qui est à la fois très au cœur de la puissance évocatrice des choses, comme tu l'as dit, Héloïse, et en même temps qui parfois peut aller jouer avec l'absurde, qui s'enquiquine pas de trop de règles romanesques, justement. Alors après, évidemment, il y a une tradition poétique qui est très universitaire, très littéraire et très importante, mais le format poétique permet, et c'est d'ailleurs son cœur absolu, de faire ce qu'on veut avec le langage. Et moi, j'ai toujours écrit des poèmes qui ont très longtemps été très mauvais, il faut quand même le signaler. Moi, mes poèmes de Fête des Mères, c'était vraiment un enfer, quoi. Mais je reconnais aussi que dans la lecture des poèmes, alors c'est, bon, évidemment, Prévert a été là très, 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 très longtemps, mais après, il y a eu, je me souviens de René Guicadou, de Marguerite Yourcenar, qui a publié des recueils de poèmes, d'avoir été totalement bouleversée et en même temps comme immédiatement comprise. Il y avait cette immédiateté du poème que je ne trouvais pas dans les romans. Et j'ai commencé à en écrire par imitation. Et c'est peut-être sans doute pour ça que c'était très mauvais. Et puis ensuite, il y a eu quand même, et là c'est d'un point de vue très générationnel, mais l'arrivée des réseaux sociaux là-dedans. Donc cette espèce d'espace où il était possible de mettre un texte tout de suite et d'avoir des retours tout de suite, puisque personne ne voulait publier mes poèmes papier à cette époque-là. Et donc pendant des années, de pouvoir essayer des choses comme ça et d'avoir tout de suite des retours et des commentaires et des impressions et des critiques. Donc c'est vrai que pour moi, la poésie a toujours fait partie de mon bagage d'écriture et sans doute, alors pour le coup, le véritable endroit de respiration.
Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même dans l'armée des idées, j'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Jacques Prévert. Ça vous correspond bien.
Merci beaucoup.
Je vais juste un petit point, parce que j'aimerais vraiment vous donner la parole. J'aimerais, Cécile, finir, non pas sur la langue des choses cachées, mais une bête au paradis. Mmh. Voilà, une petite image que j'avais envie de partager avec vous. C'est la fin de... c'est pas la fin de l'histoire, parce que il n'y a jamais de fin dans vos histoires. C'est l'humanité, c'est la vie, c'est l'existence qui est comme ça. Ça se passe effectivement, Blanche, donc personnage principal, plonge sa main dans une caisse. C'est une petite boîte de souvenirs qu'elle découvre et qui est celle de son père. Parmi ces quelques objets, il y a donc le récit, l'histoire évidemment du paradis, et puis des carnets, et puis une photo. Et elle trouve cette photo. Et son père donc écrit derrière cette photo: ce dimanche-là, nous avions emporté la grande bassine au bord de l'étang. Marianne ne voulait pas que les petits se baignent dans la vase. On ne voit que les enfants sur le cliché. Il faut imaginer Emilienne qui trempe ses pieds dans l'eau, Marianne qui tente de repousser le chien, et moi qui ne dis rien, car c'est ici que le monde s'arrête et que le bonheur commence. Je vais donc me taire. Nous avons passé une heure ensemble, le monde s'est arrêté, et nous avons eu le bonheur de vous rencontrer. Merci Cécile, en ce qui me concerne.
Merci
beaucoup. Et je vais, et nous allons maintenant... Vous allez pouvoir profiter pour échanger à votre tour. Alors que les choses soient claires, voilà, sinon c'est moi qui prends la parole. Donc dépêchez-vous de poser des questions.
Cécile, est-ce que ce livre-là marque une rupture dans votre œuvre ?
Absolument, Daniel Martin. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui a, oui, quelque chose qui a rompu, mais pour aller vers une nouvelle forme, ça a été un grand. L'écriture de ce texte, elle a été extrêmement rapide. C'est un mois et demi, un peu moins de deux mois, parce qu'il y avait une urgence de temps. Je savais, c'était à l'été 2022. Je savais que fin août, je prenais mon travail justement à la source de France Inter. Et donc, j'ai commencé début juillet et j'ai su le 14 juillet qu'au 26 août, je n'aurais plus le temps d'écrire. Donc, il y avait cette très grande urgence. Et dans cette très grande urgence, l'idée de faire un format beaucoup plus court que d'habitude, de faire un style qui est beaucoup plus âpre, beaucoup plus acéré, qui va un peu plus loin, qui est parfois plus poétique aussi, ça a été en fait une expérience tellement... fabuleuse, que en fait moi maintenant j'ai envie de, en tout cas pour le prochain, de garder et ce format et cette vivacité là. Donc oui, ça, en tout cas ça a ouvert aussi notre porte, mais c'est le livre des 30 ans, c'est pour ça. Voilà. Oui, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé au moment où j'ai commencé à penser à l'histoire, pas à l'écrire, mais à la penser, c'est que je sortais d'un an de tournée hein, en librairie pour Seul en sa demeure, qui était le roman précédent. Et en fait, il y a eu quelques semaines de réflexion pas très agréable où j'avais la sensation de faire partie du paysage sans faire partie de la photo, de la littérature, quoi. C'est-à-dire que de ronronner un peu. D'être là depuis 15-16 ans, je voyais que les choses changeaient dans le monde éditorial aussi, que je n'étais plus la petite jeune qui vient de publier. J'aime bien de faire comme ça, c'est gentil Daniel, merci beaucoup. Mais que j'étais plus ce qu'on appelle les outsiders sur une rentrée littéraire, que c'était terminé, et surtout j'ai eu la sensation de perdre quelque temps une certaine verve d'écriture. Voilà. De faire mille choses à côté, dont animer une émission, dont faire une collection, de faire pas mal de choses, et que tout d'un coup, l'écriture était devenue un peu secondaire. Et il fallait qu'elle revienne au premier plan, donc remettre un peu l'église au milieu du village, et donc l'écriture au milieu de la vie aussi. Mais du coup, maintenant, pour rien au monde, je changerai là. J'ai l'impression d'avoir fait place nette.
Dans ce roman, vous avez des personnages qui sont extrêmement forts Et est-ce que par moment vous avez eu l'impression qu'il voulait vous échapper à vous, qu'il voulait échapper à votre écriture, qu'il voulait aller vivre ailleurs. Peut-être vivre plus loin encore?
Alors, c'est une excellente question que vous posez, monsieur. En fait, je crois que, alors pour ce livre-là en particulier, mais aussi pour les autres, c'est au moment de l'écriture, moi je suis toujours très persuadée que je contrôle tout. Quand je commence à écrire un texte, je sais comment ça se finit, je connais mes chapitres, je sais ce qui va se passer. Et je me rends compte, une fois que le livre est sorti, qu'il y a toute une part souterraine, une part inconsciente des personnages qui, pour le coup, me dépasse un petit peu. Je me rends compte à quel point, moi, j'avais imaginé une histoire d'un personnage et puis des lecteurs et des lectrices viennent me dire ce qu'eux, ils ont pensé, ce qu'eux, ils ont vu. Et je me dis, ah, mais en fait, moi, j'avais pas du tout compris ça. Enfin, je n'ai pas écrit ça. Et c'est en cela que je suis dépassée par ce qu'ils font. Au départ, je pense que je tiens très bien la bride. Et en fait, je me retourne. Et en un quart de seconde, ils ont quitté l'enclos, quoi. Voilà.
Si je peux me permettre une deuxième question. Pour moi, à la lecture de votre roman, la Terre a une importance capitale. C'est énorme. Ces personnages sont comme s'ils étaient faits de la Terre elle-même. Ils emportent la malédiction, ils emportent les bienfaits, ils emportent tous les mystères. Et est-ce que vous avez travaillé plus particulièrement dans cette optique-là?
Je me demande si je travaille pas de cette façon-là pour tous les romans. Si en fait, alors peut-être que dans celui-là, le format fait que c'est très très fort, mais je crois que pour Trois saisons d'orage ou Une bête au paradis, c'était déjà extrêmement prégnant, l'idée que vous venez d'évoquer. Comme pour moi, de toute façon, cette Terre, c'est le personnage principal. Donc elle prend le dessus, mais les personnages ne la quitteront jamais, d'une manière ou d'une autre.
Bonsoir. Quand même, dans le texte, les pensées du guérisseur,
oui,
ou de la mère, qu'on suppose dehors quand même,
oui,
pas loin, comment vous avez, est-ce pure imagination, est-ce que vous avez parlé avec beaucoup de guérisseurs?
Alors, je ne suis pas allée faire, comment dire, un travail de recherche pour ce livre-là. En revanche, comme pour les autres livres sur des sujets différents, ayant une légère expérience de cela, j'ai utilisé ce que je pressens, ce que je sais, ce qu'on m'a dit dans ces moments-là. Et sans doute que le plus difficile a été de ne pas raconter n'importe quoi. Voilà.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait plus de 3000 romans qui étaient publiés par an. Et quand on voit que, notamment chez les jeunes, ça lit de moins en moins. C'est quoi votre réaction par rapport à cela?
Alors, c'est une très bonne question, mais j'ajoute une légère nuance, parce que ça dépend ce que vous appelez les jeunes. Puisqu'en fait... Non, mais c'est vrai parce que...
Les jeunes lecteurs, les...
C'est l'adolescence? Est-ce que c'est avant l'adolescence? Est-ce que c'est 20, 30 ans? Parce qu'en fait, alors là, d'un point de vue purement éditorial, ce qu'on appelle la littérature jeunesse ne s'est jamais aussi bien et aussi énormément vendu. Donc, ce que je pense, c'est que, et je pense que c'était déjà le cas quand moi j'étais jeune et ado, c'est que ceux qui lisent, lisent énormément, et ceux qui lisent pas, ne lisent pas du tout. Et après, on y revient ou pas, en gros. Après, pour répondre à votre question sur ces 3000 romans et l'idée qu'on perd une partie de son lectorat à un certain âge, en gros, je pense que d'une part, il faut faire confiance aux libraires, il faut faire confiance au temps, parce que parfois, il y a des livres, quand ils sortent, ne trouvent pas lectorat ou tout petit lectorat. Et au fil des années, se créent ce qu'on appelle des succès de librairie, c'est-à-dire des livres qui restent sur table pendant des années. Et on avance, et je pense, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'à ses débuts, Marie-Hélène Lafont, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est parce qu'il y a des libraires pendant 5 ans, 10 ans, qui ont transmis les textes, et c'est pareil pour Pierre Michon, et c'est pareil pour moi, tout se joue là. Je pense qu'il y a ça, il y a l'idée que, chez les jeunes, quand... Non mais ça c'est intéressant, c'est que par exemple, les succès de librairie chez les adolescents, il suffit qu'il y ait... moins de 1000 adolescents en France qui ont aimé un livre, et ça deviendra un succès colossal parce que la transmission va très 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 vite à travers les réseaux sociaux. Donc en fait, moi, ce que je déplore maintenant, c'est que c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y avait pour les auteurs la possibilité d'être entre deux, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui n'est pas du tout lu, ou quelqu'un qui est très très lu, mais d'être au milieu entre les deux. Maintenant, et là c'est d'un point de vue éditorial hein, que je parle, c'est que si vous ne passez pas un cap de vente très vite, ça va être très très compliqué. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense qu'il y a je pense qu'on lit énormément. Pas tous de la même manière, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de livres qui sont publiés, donc l'offre est de plus en plus grande, mais il n'y a pas de plus en plus de gens qui lisent, et que il y a un temps médiatique, un temps de sortie, de rentrée, qui s'est beaucoup, beaucoup resserré. Donc on a quelques semaines pour faire ses preuves. Et si on a de la chance, il y a des libraires qui laissent le bouquin sur table pendant plusieurs mois, si on est suivi par des libraires. Voilà.
Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Je n'ai pas lu tous vos livres, mais j'aime beaucoup les textes que vous écrivez quand vous êtes dans le train, par exemple. Je ne suis pas la seule. Vous faites des portraits un peu au vitriol de nos semblables. Et est-ce qu'un jour, vous écrirez un livre qui aurait cette tonalité-là et ouais. qui soit voilà, un livre moins romancé, moins élaboré, finalement? Enfin, moi, j'aimerais beaucoup lire ce genre de choses.
Alors, faire un recueil des chroniques ferroviaires, par exemple, ça n'arrivera pas. Parce que... ce qui fait que ces textes-là, en ligne, fonctionnent, c'est justement parce qu'ils arrivent par petites touches et que c'est à certains moments. Et si on les met tous ensemble dans un texte de 100 pages ou 200 pages, ça va devenir très répétitif et donc très ennuyeux au bout de 10 pages. Ce qui fait le sel de ces textes-là, c'est que justement, c'est très, très ponctuel. Mais je vous remercie de les citer parce qu'on n'en avait pas parlé. On a parlé beaucoup trop de poésie et pas assez de mes débriefings.
Ce que je vous propose, pour laisser le temps quand même, est-ce que vous puissiez voir individuellement Cécile Coulon avec un ouvrage ou ce que vous voulez d'ailleurs. Une petite anecdote pour finir, ouais. Puisqu'on parlait du train. Eh bien, le magazine Lire du mois de février dernier, Cécile Coulon, donc, il y a une rubrique que j'adore, qui s'appelle « On visite, on se rend effectivement chez l'autrice et chez l'auteur ». C'est comme ça que depuis des années, j'ai pu savoir où vivaient les auteurs, les autrices que j'appréciais, les autres aussi d'ailleurs. Et ça permet de voir un environnement, on a l'impression d'être un peu voyeur quelque part, mais tout ça effectivement avec un regard tout à fait désintéressé. Et il se trouve que mois de février, je vois « On va chez Cécile Coulon », la rubrique « On va chez Cécile Coulon ». Et je me dis « C'est génial ». Je me dis « En plus, ça va mettre en valeur Clermont-Ferrand, on va voir un petit peu comment Cécile Coulon vit, où c'est qu'elle est installée, etc. » Trop content. Et là, grosse déception, je vois les photos, c'est absolument pas à Clermont, c'est dans la région parisienne, la Vitry, etc. Ivry, pardon. Oui, mais moi, je suis un provincial, je fais pas différence, c'est ça le truc. Et là, on se connaît pas, mais je...
Il y a une raison pour laquelle c'était
Ivry. Mais j'y viens, je vous en voulais à mort. Et je dis, tant pis, plutôt que déchirer mon journal, je vais quand même lire la rubrique. Et qu'est-ce... Je l'ai là, alors... Je vais peut-être le retrouver parce que je ne sais plus, j'ai mis en fait. Peu importe, je vais dire. Et en fait, il s'aperçoit que normalement, l'article... Il devait se faire à Clermont-Ferrand, ouais. Et que le photographe et là où le d'ailleurs journaliste ont pris le train, mais ils n'ont jamais dépassé Montargis. Ils ont fait demi-tour et donc l'article s'est fait absolument pas à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est vrai ou faux?
Mais c'est vrai, moi j'avais fait le ménage et tout pour les accueillir. J'avais mis mon petit tableau du Puy-de-Dôme au-dessus de ma table en train, voilà, je défends et tout. Et les mecs m'appellent en me disant, en fait là on est bloqué à Montargis, il y a plus de locomotive, il y a plus d'électricité. J'aurais dit, mais repartez dans l'autre sens, quoi, louer. Et ils sont. Mais. Et puis, du coup, on a fait ça. Non, mais c'est triste, hein. C'est très triste. Mais ça dit tout.
Voilà. Merci à vous, Cécile.
Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup.